cherche quelqu'un en qui vous avez toute confiance était accusé d'un crime, quelle serait votre attitude? Est-ce que vous le défendriez bec et ongle, plaçant au premier rang la confiance que vous lui faites, ou bien laisseriez-vous le doute s'instiller entre vous? Inspecteriez-vous votre passé conjoint pour y déceler les prémices de violence? Eh bien, c'est le sujet du premier roman de Laurence Floriska, autrice québécoise en visite cette semaine en Belgique. Le roman s'appelle Implosion et il explore les conséquences sur la vie des proches d'un jeune joueur de tennis star lorsque celui-ci est accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes dans la presse. Un roman haletant qui nous met en alerte aussi. Que penser de ce jeune homme? Est-il coupable ou pas? Que ferions-nous s'il était notre fils? Le sujet est hyper contemporain et son traitement à l'échelle individuelle lui donne un éclairage nouveau. Laurence Floriska est notre invitée ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Implosion vient juste de sortir en septembre aux éditions Héliotrope. On y dissèque les faits et gestes actuels et passés de Sébastien, un jeune tennisman hyper talentueux, prometteur, sexy, qui prône les plus belles valeurs sportives et qui est accusé de faits très graves par des jeunes femmes dans les médias. Et ce qui est très particulier dans votre roman, c'est qu'on a uniquement le point de vue des proches de l'auteur présumé des violences. On suit toute l'affaire du point de vue de sa mère, Kathleen, de sa petite amie Clémence et de son meilleur ami Charles. Laurence Floriska, pourquoi les proches vous intéressaient plus que l'auteur des faits?
Pour plusieurs raisons. Je pense que dans le mouvement MeToo, on a beaucoup parlé des victimes, évidemment, puis c'est encore important d'en parler, je pense. On a beaucoup aussi parlé des agresseurs, c'est des gens qui ont été dénoncés, du moins, on en a beaucoup entendu parler, puis on a très peu vu ou décloisonné, du moins, ces perspectives-là de l'entourage, de qu'est-ce que ça pouvait provoquer chez les proches, comment est-ce que les relations intimes pouvaient justement s'effriter suite à un événement comme ça. Puis ça m'a vraiment intéressé d'avoir ces trois perspectives-là aussi qui sont, à mon avis, très distinctes et qui posent des questions aussi vraiment différentes l'une de l'autre. Du côté de la mère, bien, c'est toute la question de la responsabilité maternelle et les limites du rôle aussi de la mère dans l'éducation des jeunes garçons. Du côté du meilleur ami, bien là, on se plonge vraiment dans l'amitié masculine, qu'est-ce qui passe sous le nez parfois des garçons qui participent à cette culture du viol-là qui est encore, à mon avis, très présente aujourd'hui. Et finalement, la copine qui, ben elle, est amoureuse de ce garçon-là, puis ça disparaît pas du jour au lendemain, ses sentiments amoureux. Donc, je me suis demandé justement comment est-ce qu'elle peut vivre avec ces contradictions-là, comment elle se sent après tout ça, puis comment ça évolue. Je trouve que c'est des angles, justement, qui défriche d'autres aspects de la culture du viol dont on n'a pas tant parlé, dont les violences ordinaires, entre autres.
Mm-hmm. Et alors, tour à tour, ces gens, ils vont douter ou pas, se poser des questions ou pas. Et la première personne à douter de Sébastien, c'est sa propre mère. Hein. C'est le premier chapitre du livre. Kathleen, la mère de Sébastien, celle qui l'a mis au monde, qui a essayé de lui inculquer les meilleures valeurs, qui l'a encouragé à mettre toute son énergie dans le sport. Eh bien, Kathleen scanne la personnalité de son fils depuis qu'il est né. Et elle se dit que non, ça n'est pas impossible que la chair de sa chair ait commis ce dont on l'accuse. Pourquoi elle doute, cette mère, Laurence Floriska?
Je pense que je voulais que mes personnages réagissent un peu tous différemment aussi. Ça, c'est une des raisons. Puis, quand je faisais mes recherches, évidemment, ce qui revenait le plus souvent, c'est que dans la plupart des cas, du moins, on commence par le déni. Mais j'avais envie d'un personnage, justement, qui n'est pas tout à fait dans ce déni-là profond. Puis je trouvais que la mère, c'est intéressant parce que ben, dans le roman, c'est une mère monoparentale qui a aussi vécu des violences sexuelles dans le passé par le père, en fait, de Sébastien. Puis je trouvais que ça rajoutait une espèce de profondeur puis une complexité aux enjeux où, en tant que mère, tu sais, on pense vraiment connaître par cœur nos enfants. Fait que je me suis dit, ben si on connaît par cœur nos enfants, peut-être qu'il y a ce doute-là parce que j'ai l'impression que la mère aussi, dans le roman, publiquement, ça paraît pas tant que ça, tu sais, qu'elle doute. Mais c'est vraiment dans son discours intérieur que se voit s'immiscer ce doute-là où c'est pas impossible. Puis ça, je trouvais ça intéressant d'explorer ça.
Ben, c'est pour ça aussi que, oui, ce personnage est intéressant. C'est-à-dire que nous, on sait qu'elle doute, mais elle continue à soutenir son fils. Et évidemment, ça pose plein de questions morales. On va parler aussi de Charles, hein, le second personnage principal. C'est un ami très proche de Sébastien. Avec lui, on comprend très vite que Sébastien, par le passé, il a déjà eu des comportements un peu limites avec les filles. Sauf que Charles, en fait, il admirait son ami et précisément pour cette raison, il admirait la facilité, la confiance avec laquelle Sébastien, il abordait les filles. Et en cela, votre livre, il pose une question très contemporaine. Est-ce qu'on a appris, Laurence Floriska, dans nos sociétés occidentales, à valoriser et aimer les tempéraments de prédateurs?
Je pense que oui, malheureusement. Je pense qu'on banalise encore énormément de comportements qui sont problématiques. Puis c'est un peu ça le travail que j'ai voulu faire avec Charles. J'ai pas voulu en faire une espèce de stéréotype non plus du gars où c'est vraiment, d'un homme vraiment très, très problématique. Il flirte vraiment juste avec cette limite-là entre ce qui est acceptable ou ce qui l'est pas. Puis, à mon avis, c'est ce qui arrive le plus couramment en plus autour de nous. Puis ça parle énormément, à mon avis, de justement cette banalisation-là collective du viol, des féminicides aussi, plus largement, de tout ce qui est agression plus grave, là.
Il y a aussi la petite amie, hein, Clémence, vous l'avez citée, la petite amie de Sébastien. Elle vient d'apprendre que l'homme qu'elle aime, avec qui elle a prévu de passer sa vie, est accusé d'agression par des femmes, sous les yeux du monde entier en plus, hein, puisque son compagnon est célèbre. Mm-hmm. L'univers s'effondre autour d'elle, mais pour elle, ça ne fait aucun doute. Sébastien est innocent et donc elle va être aux petits soins avec lui pour l'aider à vivre ce moment, l'aider à se défendre. Elle se met même complètement elle-même entre parenthèses. Pourquoi est-ce qu'elle a aucun doute, Clémence ?
Parce que je pense que ça arrive très souvent dans les partenaires qui sont avec des garçons qui se sont fait dénoncer. C'est arrivé très, très souvent que la partenaire reste. C'est mon roman a été un peu... c'est pas issu d'une histoire personnelle, mais j'ai quand même connu des gens durant mon adolescence. Un garçon qui s'est fait dénoncer où justement sa copine était restée avec lui puis elle avait perdu son groupe de filles à cause de ça. Donc, ça a vraiment piqué ma curiosité, en fait. Je me suis demandé, justement, pourquoi est-ce qu'il était prêt à faire autant de compromis, à perdre tout son cercle social pour rester avec ce garçon-là.
Parce que c'est ce qui lui arrive aussi, hein, à Clémence. Elle n'ose plus voir ses copines parce qu'elle ne veut pas avoir la discussion.
Elle ne veut pas se faire juger par ses amis. Fait que pour moi, il y avait quelque chose aussi de féministe là-dedans, d'essayer d'aller comprendre cette femme-là, ces femmes-là, du moins, qui restent auprès de ces hommes-là, de voir qu'est-ce qui les pousse, c'est quoi leurs contradictions, justement, intérieures, qui sont sûrement pas très évidentes à vivre. Donc voilà, pour moi, Clémence, c'était vraiment cette exploration-là de...
Je me disais au fond que Clémence, admettre que son compagnon a fait quelque chose de mal, c'est aussi admettre que sa vie peut s'effondrer.
Ouais.
Et est-ce que c'est ça aussi?
Oui, puis qui est tenté s'avouer ça. Tu sais, les violences à caractère sexuel, c'est tellement violent, c'est tellement difficile à voir en face. Que Clémence avoue ça, c'est aussi s'avouer qu'elle est tombée en amour avec un garçon qu'elle connaît pas vraiment. Puis c'est cohérent pour moi avec la réalité aussi où les hommes qui commettent des agressions sexuelles, 98% du temps, ils sont des bonnes personnes. Ils vont souper chez leur mère le dimanche, ils ont des copines. C'est pas nécessairement des mauvaises personnes à temps plein. Puis ça, je trouvais ça important de mettre de l'avant aussi ça à travers Clémence, qui, elle, est tombée amoureuse d'un homme qui la respecte, qui ont une sexualité, certes, pas éclatée, mais tu sais, quand même, qui flirte avec les limites peut-être d'une sexualité un peu débridée. mais ouais, voilà.
Oui, elle pose aussi une question, hein, parce qu'on va découvrir aussi la sexualité de cette Clémence, qui est, est-ce que la violence a quelque chose de désirable?
Mm-hmm. Ben, pour moi, c'est toute la question de la culture pornographique dans les rapports que Clémence a l'entretien avec Seb. Je mettais un peu de l'avant comment est-ce qu'on a construit nos dynamiques entre femmes et hommes dans des rapports hétérosexuels en fonction de ce qu'on a vu dans la pornographie qu'on a pu consommer dans du moins ma génération. Le consommer quand même assez jeune, du moins. Puis comment on reproduit ces codes-là, ces dynamiques-là de pouvoir, pour moi, c'est important à mettre de l'avant à travers ces scènes-là intimes entre Clémence et Sébastien.
Vous pointez aussi, Laurence Florisca, une forme d'hypocrisie de l'univers de la célébrité à demi-mot. Mais Sébastien, on ne sait pas s'il est coupable ou pas, mais il va perdre ses sponsors. Tout va dégringoler très vite dans sa vie professionnelle et aussi dans sa vie en ligne, parce que c'était quelqu'un qui était adulé sur les réseaux sociaux. La justice, elle est faite avant même d'avoir été faite. Quel sens elle a pour vous, cette justice du tribunal populaire ?
C'est une bonne question, qui est une question un peu épineuse aussi, parce que j'ai l'impression que les victimes d'agressions sexuelles, c'est leur dernier recours, dans le sens où le système, ils ont été laissés tomber par le système judiciaire au Québec, mais j'ai l'impression aussi en France et probablement en Belgique aussi. Fait que pour moi, ces dénonciations-là qui étaient publiques étaient nécessaires pour qu'il y ait une prise de conscience aussi collective. Mais évidemment qu'il y a eu aussi des débordements puis tout ça. Mais à un certain moment, la culpabilité de mon personnage devient assez claire. Puis pour moi, c'était évident justement qu'il n'y ait pas ce doute-là. Parce que pour moi, c'était pas central. Ce qui était central, c'est vraiment ce que ça provoque autour, plus que de savoir ce qui est coupable ou il n'est pas coupable. c'est pas vraiment important là, dans ma démarche.
Alors c'est votre premier roman, hein,
oui,
Laurence Kowalewska. Il est hyper réussi parce que à travers la voix des différents personnages, on a vraiment accès à des aspects différents de la personnalité de Sébastien. Je sais que vous avez beaucoup voyagé, fait des métiers très différents avant de publier ce livre. Vous avez planté des arbres, travaillé dans la restauration, été gardienne d'un parc naturel. Ce sont des métiers vraiment de terrain et pas nécessairement en prise avec l'actualité. Ouais. Contrairement à votre roman, pourquoi vous avez eu envie d'écrire cette histoire très actuelle d'une célébrité accusée d'agression sexuelle?
Ben là, vous parlez un peu de mon parcours professionnel. J'ai aussi, tu sais, c'est quand même des milieux qui sont particulièrement masculins, surtout en foresterie, quand j'ai planté des arbres, même en restauration. C'est pas toujours masculin, mais dans le restaurant où je travaille, ça l'était quand même. Donc j'ai quand même navigué dans ces milieux-là masculins où j'ai pu être témoin et aussi victime de toutes sortes de microagressions puis tout ça. Donc, puis je me considère aussi comme très féministe, puis ça a toujours été dans ma démarche professionnelle là, d'écrire, dans le sens où j'ai aussi étudié depuis quand même assez longtemps en lettres. Donc pour moi, c'est des questions qui me touchent quand même personnellement. Donc pour moi, c'est comme une évidence. Puis je trouve ça important de parler de l'actualité, de proposer d'autres réflexions, de faire avancer du moins la réflexion par rapport à ces questions-là. Même si on en a énormément parlé du mouvement MeToo, je pense qu'il y a encore des angles morts parce que... ça continue d'arriver, là. L'affaire Mazan, c'est arrivé l'année dernière. Donc, c'est encore très présent. Donc, pour moi, c'était comme vraiment important de trouver un sens dans ce que j'écrivais, puis de faire quelque chose d'actuel. C'est un peu ça, trouver du sens.
Et c'est vrai que, en prenant le prisme des proches, vous nous montrez, même si c'est de la fiction, un nouvel angle de cette actualité. Ça s'appelle Implosion. C'est signé de vous, Laurence Floriska, et c'est aux éditions Héliotrope. Merci beaucoup.